Et cette semaine, dans les conversations avec Daniel Habert, on commence le mois de février avec des négociations qui ont lieu sur deux terrains, la Russie bien sûr, mais aussi l'Iran. Eh bien, Daniel Habert répond aux questions, comme chaque semaine quasiment, de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïca. Alors Daniel, nous commençons un mois de février qui va être chargé en analyse géopolitique. Et en effet, c'est un mois qui est consacré à deux négociations. Hein. D'une part, la Russie et l'Ukraine. Évidemment, on va arriver maintenant aux 4 ans de guerre. Et puis d'autre part, évidemment, les États-Unis et l'Iran. Comment est-ce qu'on peut analyser justement les enjeux de ce mois de février?
Oui, il y a un contraste entre le mois de janvier où Trump a au fond remis d'aplomb la politique globale américaine en disant et en rappelant que sa priorité c'était ce qu'il appelait l'hémisphère occidental, Maduro, le Groenland, et puis une autre partie de son temps consacré à ce Conseil de la paix, une sorte de réunion de tous les pays du monde qui sont prêts à aller derrière Trump pour réorganiser le monde. Mais il retrouve maintenant à ce mois de février les deux grands défis qu'il avait trouvés il y a un an quand il est arrivé au pouvoir, à savoir une guerre en Ukraine, oui, qui va bientôt avoir duré 4 ans, et puis toujours cet ennemi à la fois d'Israël, mais aussi de tout l'Occident, et peut-être du monde entier, qu'est l'Iran. Alors, ça met l'hyperpuissance américaine et puis l'omniprésence de Trump encore en avant, face au fond, là, cette fois-ci, aux deux totalitarismes hein, qui sont les principaux fauteurs de troubles et de désorganisation du monde. C'est pas Trump qui désorganise le monde, ce sont ces deux totalitarismes qui, par le défi qu'ils lancent au monde entier, créent ces troubles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun au fond ces deux négociations? D'abord, elles mettent Trump face à deux Poutine et Khamenei, deux idéologues. Hein, c'est des personnes qui ont des visions. Pour Poutine, c'est une vision slave, orthodoxe, avec l'idée de retrouver l'espace des Tsars et de repasser de 17 millions de kilomètres carrés à 21 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire le plus grand pays du monde, avant la chute de l'Union soviétique. Ça, c'est ce qu'il a en tête. De même, Khamenei, lui, veut réislamiser, et c'est fait, l'Iran, réislamiser le monde musulman et islamiser le monde. Donc, ce sont des idéologues. Mais ils sont assis, tous les deux, sur des entourages qui sont en fait à la poursuite d'intérêts financiers puissants, hein, les oligarques russes et autour de Khamenei, ces gardiens de la révolution dont l'élite contrôle une grande partie de l'économie iranienne. Donc ils défendent tous les deux à la fois des visions idéologiques, des fanatismes hein, et en même temps des grands intérêts. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a peu de chances qu'ils cèdent aux objurcations de Trump, venez négocier, parce que négocier pour Trump, c'est trouver des compromis, ce qu'on appelle des deals. Un deal, c'est pas un gros mot, hein. C'est la recherche d'un compromis gagnant-gagnant. Alors que là, on a affaire à des dictateurs qui sont campés sur l'opposition, têtus. Et qu'on a du mal à convaincre d'avancer. Ça nous ramène quand même à ce qu'on a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale face à Hitler et à Hirohito au Japon. Il a fallu pour les vaincre aller jusqu'à la destruction totale de ces deux pays. Donc on en est là et c'est ça qu'il faut bien comprendre parce que bien sûr, on a tous l'espoir de négociations, mais elles sont assez minces avec des fanatiques comme ça. On peut de temps en temps essayer de trouver des accords, mais ce sont toujours des accords que j'appellerais munichois. Quand Obama avait essayé de trouver un accord avec l'Iran en 2015, dont Trump est sorti, c'était un mauvais accord. Un accord qui, au fond, était extrêmement favorable à l'Iran. Ça libérait toutes les sanctions contre le contrôle seul du nucléaire, alors qu'on sait qu'on ne peut pas vraiment contrôler tout ce qui se passe en secret. Donc, on peut dire que ces deux totalitarismes sont difficiles à négocier. Voilà ce qu'on peut retenir de cette phase actuelle qui s'annonce.
Alors, quelles sont les perspectives, Daniel?
Très difficile à dire, et tous les commentateurs que vous écoutez à la télévision se perdent en conjecture. Moi, je voudrais plutôt dire quels sont les enjeux hein, pour chacune des négociations. Avec la Russie, bon, Trump a finalement compris qu'il n'obtiendrait pas vraiment le deal qu'il cherche. Donc, négociation, elle porte en fait non pas sur l'Ukraine peut-elle un jour récupérer la Crimée et le Donbass, parce que je crois que tout le monde sait que c'est perdu, y compris Zelensky. On lui a suffisamment tordu le bras pour que tout ça soit quasiment accepté. En fait, les négociations portent sur autre chose. Elles portent sur les conditions du cessez-le-feu. Bon, on va s'arrêter. On va perdre évidemment pour l'Ukraine la Crimée et le Donbass, mais dans quelles conditions va-t-on cesser le feu? Où sera la ligne de cessez-le-feu? Et surtout, quelles sont les garanties que le cessez-le-feu sera respecté? Et l'autre négociation, c'est qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que cette victoire qui est inévitable pour Poutine va le booster tellement qui va immédiatement s'intéresser à d'autres actions, parce que derrière lui, il a ce complexe militaro-industriel, ces oligarques qui vivent de la guerre. Ils sont en économie de guerre et donc ils sont obligés de poursuivre pour pouvoir faire tourner la machine de guerre. Et donc, on risque soit qu'il attaque un pays qui n'est pas dans l'OTAN, comme la Moldavie, ou un pays qui est dans l'OTAN, comme les Pays-Baltes. Donc ça c'est ces deux négociations, en fait, tournent autour d'une seule chose, c'est quelle garantie l'Occident va-t-elle donner à Zelensky pour qu'il accepte? Et on sait que les Européens peuvent pas donner les garanties suffisantes. Donc tout tourne autour des garanties que Trump acceptera de donner. Ça, c'est l'enjeu de la négociation avec la Russie. Avec l'Iran, l'enjeu, c'est évidemment le changement de régime. Les bombardements de juin de l'année dernière, les sanctions qui touchent l'Iran depuis des décennies, ont tellement affaibli l'Iran que le peuple iranien a cru que c'était le bon moment pour se soulever. Il l'a fait, mais les opérations n'étaient pas prêtes du côté américain, ni sur ce qui se passe à l'intérieur et qu'on espère, ni sur l'opération, sur l'opération logistique extérieure. L'armada n'était pas là, elle est encore en train de se mettre en place. Donc cette illusion qu'on pouvait faire tomber le régime en ce moment, a causé ce massacre épouvantable dont on parle beaucoup. Et puis, mais tout reste possible. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qui préparent autre chose. Donc, l'Iran a finalement bien compris ce qu'il attend. Et donc, il sait qu'il peut pas. Il a une menace et pour l'éviter, il est assez habile. Il faut dire que les Iraniens, c'est eux qui ont inventé le jeu d'échecs. Donc ils sont de bons négociateurs. Donc à l'extérieur, ils disent en gros, vous pouvez nous attaquer, mais le coût de votre attaque sera tellement élevé que voilà, c'est une dissuasion très forte qu'ils font et ça semble marcher, puisque même les États du Golfe, même Israël sont dans une forme d'hésitation. Par contre, à l'intérieur, la répression est terrible parce que ils se doutent bien que quelque chose est en train de se passer. Et donc, en même temps aussi, les Iraniens s'adressent à l'opinion publique américaine, gagnent du temps parce que cette opinion publique, notamment MAGA, va jouer un grand rôle au moment des élections. Et donc, plus on se rapproche des élections, plus Trump aura du mal à négocier quelque chose. Donc voilà un petit peu les enjeux qui sont en cours et qui fait qu'on est un petit peu en attente.
Pour conclure, Daniel, quels sont justement les risques auxquels on pourrait faire face?
Écoute, pour la Russie, c'est que même très très même l'Ukraine est tellement affaiblie, c'est ça le grand risque, c'est l'affaiblissement de l'Ukraine, ce bombardement incessant de toutes les installations électriques qui fait que toute l'Ukraine tremble de froid avec moins 20 degrés, et donc on s'approche d'un moment où les Ukrainiens vont être vraiment fatigués et sont prêts à sont prêts les parents et les grands-pères sont sur le front. maintenant, c'est quand, et les jeunes sont soit c'est eux qui tiennent là, c'est que eux tiennent l'économie ukrainienne, mais il y en a beaucoup qui sont partis. Donc le risque, c'est que ça crée des cracks, et avant même que qu'on ait pu mettre en place des garanties. Ça, c'est le grand risque. Avec l'Iran, le risque, c'est que finalement Trump n'ait le choix qu'entre frapper quelques cibles en espérant qu'il n'y ait pas de réponse suffisante de l'Iran qui conduirait à une escalade qu'il ne veut à aucun prix. Et l'autre risque, c'est évidemment un mauvais accord. On voit qu'on parle du nucléaire seulement, et donc quand on regarde ce qui se négocierait aujourd'hui, c'est exactement un retour à l'accord d'Obama de 2015, dont Trump était sorti. Donc personne ne peut imaginer, et surtout pas Israël, qu'on refasse un accord munichois du type 2015 uniquement sur le nucléaire. Or, les Iraniens sont assez intelligents pour dire, proposer au fond aux Américains en disant, OK, on renonce au nucléaire et on s'arrête là. La grande différence avec Obama, c'est que en contrepartie de l'accord nucléaire, les Américains avaient levé les sanctions. Et donc ça, c'est le rêve des Iraniens, c'est la levée des sanctions, parce que la levée des sanctions signifie surtout le retour à une forme de prospérité possible, et surtout à des moyens nouveaux, des ressources nouvelles qui permettront d'accélérer les programmes de missiles et autres réarmements du Hezbollah, du Hamas, etc. Donc la seule chose que Trump pourrait rêver de négocier, c'est un accord sur le nucléaire sans levée des sanctions. Sans lever des sanctions. C'est la seule chose qui différencierait un accord sur le nucléaire avec l'Iran de l'accord du mauvais accord d'Obama, l'homme que Trump déteste le plus au monde. Et on voit mal les Iraniens accepter ce genre de deal. Donc on se retrouve devant une situation, je dirais, inconnue. Et la seule chose, au fond, tout ce qu'on a au fond du cœur, c'est que il peut se passer une grande surprise. C'est ça qu'on attend tous, cette surprise qui viendrait de l'intérieur de l'Iran, où quelque chose se passerait avec l'opposition iranienne, appuyée de la CIA et évidemment du Mossad, dont on attend qu'il sorte la grande surprise qu'il avait lancée sur les Hezbollah il y a plus d'un an. Et donc on est plutôt dans l'espoir, mais sans savoir où on va. Donc on est dans une forme d'attente, d'impatience, mais de patience obligée, et sans savoir très bien où on va. Donc on entre dans un mois de février très inconnu.
Et on aura évidemment l'occasion d'en parler dans nos conversations. Merci beaucoup, Daniel Habert, d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.